Les hommes sont très machos, jaloux comme des tigres et se croient eux-mêmes tout permis. Ce comportement est toujours d'actualité, même si le machisme s'est atténué car les femmes travaillent et sont émancipées. Les femmes ont dû supporter cela pendant des années et dans le sud-ouest de la France, elles sont encore confrontées à l'ego masculin.
C'est vrai?
Un peu, moins peut-être. Mon beau-père est originaire de l'Orne, mais de par son grade d'officier, lui et sa famille ont déménagé plusieurs fois.
Est-ce à cause de ces mutations que votre mari est né à Saint-Terme?
Non, vous confondez avec mon père. Mon mari est né dans les Yvelines.
D'accord, je me suis trompée.
Mais en effet, les autres enfants sont nés dans l'Aisne.
Votre mari est-il toujours resté près de Paris?
Oui, mais on allait régulièrement dans l'Aisne.
Est-ce que vous y alliez avec sa famille?
Oui. Le frère aîné de mon beau-père, qui était polytechnicien, tout comme lui, était marié à une femme très gentille et très accueillante. Ils avaient 10 enfants, l'ambiance était toujours agréable. Ils nous invitaient tous les ans. Ils nous répétaient sans cesse que notre séjour chez eux était trop court, mais nous tâchions de nous y rendre régulièrement. Nous les aimions beaucoup. Ils étaient simples, accueillants, comme c'est souvent le cas au sein des grandes familles. En revanche, ma belle-mère était une femme du monde. Les mondanités étaient sa raison de vivre. Mon beau-père était un homme très intelligent, très cultivé. Il n'aimait pas ce genre de réception. Il adorait rencontrer des gens intéressants, mais en prenant le temps de les connaître. Tout le contraire de ma belle-mère. C'est comme ça.
En effet, je pense avoir fait le tour des questions que je voulais vous poser. Il m'en reste une cependant. Étant donné que je travaille sur le français, j'aimerais savoir si votre apprentissage de la langue s'est fait grâce aux parents ou aux instituteurs.
En grande partie grâce aux parents.
Est-ce que vous étiez gardé par une nourrice, par exemple?
Non, pas à cette époque-là. Lorsque j'étais petite, la nourrice de la famille était à la retraite et ma famille avait réuni l'argent nécessaire pour lui acheter une maison au bord de la mer. Tous nos chiens étaient enterrés dans son jardin, dans une sorte de cimetière avec des pancartes en guise de pierre tombale. C'était une femme très gentille. À la fin de sa vie, elle ne pouvait plus vivre seule. Elle s'est donc installée chez ses neveux, qui avaient une ferme près de Saint-Brieuc. Il y avait une petite maison plâtre, tout près de cette ferme, où notre nourrice avait amassé tous les souvenirs d'Égypte qu'elle possédait. Ces souvenirs étaient constitués de cadeaux que ma famille lui avait offerts, des tapisseries, des plats, de très belles faïences. Elle se régalait de tout nous montrer. Il y avait un diplôme aussi, accroché au mur, sur lequel était inscrit 55 ans de service. Nous adorions cette femme. Elle s'est éteinte avant que mon père ne décède. La pauvre femme ne pouvait plus se rendre à Saint-Brieuc. Elle était alitée en permanence. Je me rappelle qu'elle avait comme rétréci. Elle ressemblait à une grande poupée. Elle semblait si petite, si fragile. Je suis arrivée, je me suis approchée d'elle pour l'embrasser, et j'ai vu dans ses yeux de grosses larmes qui coulaient. Mes frères n'étaient pas là pour m'accompagner, bien qu'ils soient venus à l'enterrement. Ma nourrice aimait beaucoup mon père, car il avait un tempérament joyeux, très farceur. Il l'amusait, déjà lorsqu'il n'était qu'un petit garçon. Elle affectionnait aussi mon oncle, qui lui était très sérieux. Pendant mon enfance, le pays était en guerre, la situation était différente. La famille comptait plus que tout, car nous étions souvent séparés. Avant que la guerre ne soit déclarée, notre famille se réunissait régulièrement. Nous allions en Bretagne, rendre visite à nos proches qui venaient passer quelques jours chez nous à leur tour. Nous avons tout de même continué à voir certains oncles et tantes, malgré la guerre, mais ce n'était plus pareil. J'imagine que la situation était ainsi pour tout le monde. Dans plusieurs pays, les vies de nombreuses personnes ont été bouleversées. Nous sommes quand même restés en contact avec nos proches, mais l'important pour moi était mes parents, mes copines de classe. Pour en revenir à l'acquisition du français, je pense avoir appris cette langue naturellement.
Est-ce que les gens avaient pour habitude de corriger vos erreurs?
Tout dépend de la situation. Par exemple, avec vous, je me sens confiante et détendue, donc je suis capable de tenir une conversation. Dans un contexte différent, il serait plus difficile pour moi de parler français.
Vous auriez plus de difficultés dans un cadre officiel, très formel?
Je ne dis pas que nous sommes là à faire des pitreries, mais oui, je me sens plus à l'aise. Quoi qu'il en soit, il faut savoir garder ses distances, ne pas se précipiter sur les gens. Il faut d'abord se présenter, discuter, si possible trouver des points communs. Par exemple, lors d'un dîner, même si notre voisin de table est charmant et passionnant, il ne faut pas dénigrer les autres convives, au risque de passer pour une personne impolie. Chaque situation a ses codes, mais je pense qu'il est important de rester naturel. Je crois que se conformer strictement aux règles est une erreur. D'ailleurs, le savoir-vivre dogmatique se perd.
Vous pensez?
Oui. Bien que les règles de bienséance soient préservées dans certains domaines, les musées par exemple. Travailler dans un musée incombe d'être très courtois, très respectueux, en dépit du caractère joyeux que peut avoir une personne en privé. C'est déstabilisant de s'être conformé aux règles pendant 20 ans et de se rendre compte qu'aujourd'hui, les gens ne vivent plus dans ce carcan. Même dans un cadre professionnel, les consignes sont données de manière polie et respectueuse. La norme est totalement différente. Je ne dis pas que les personnes comme moi doivent changer de personnalité, mais nous sommes forcés de nous adapter. Par exemple, les gens de mon âge sont confrontés à la nouvelle génération et doivent s'accommoder, ne pas rester chez eux, mais au contraire s'ouvrir au monde. De plus, de nos jours, il existe aussi la masse de population active qui est bien ancrée dans la société actuelle. Malgré tout, beaucoup de gens vivent encore dans le passé. C'est un phénomène très français, je trouve. Je ne parle pas de ceux qui vivent coupés du monde, en autarcie, mais plutôt le fait d'accorder tant d'importance à la famille. Les gens sont très attachés à l'histoire en général. D'ailleurs, si vous écoutez les conversations courantes, par exemple dans un café, vous entendrez parler de politique, de voisinage et d'histoire de famille. Je pense que la politique arrive en tête des sujets de conversation. C'est particulièrement flagrant lorsque vous discutez avec un chauffeur de taxi. Dans d'autres pays, le pauvre chauffeur serait décontenancé si, en plus de payer sa course, le client lui demandait son avis sur la situation politique actuelle. Il ne saurait tout simplement pas quoi répondre. Ça se passe encore comme ça dans de nombreux endroits, malgré les médias de masse comme la télévision.
Je pense que c'est une bonne chose que les gens se parlent, qu'ils fassent tomber les barrières.
Oui, les gens n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ils peuvent même tenir des propos fâcheux sans s'attirer les foudres de leurs interlocuteurs. Pour en revenir à votre question sur l'acquisition du langage, je pense que les petits apprennent à parler grâce à leurs parents, s'ils sont suffisamment présents. Hélas, de nos jours, il est fréquent que les parents travaillent et aient peu de temps à consacrer à leurs enfants. Dans le meilleur des cas, seul le père est absent. La tendance inverse existe aussi, c'est-à-dire que certaines mères sont trop protectrices et finissent par étouffer leur enfant. Dans tous les cas, qu'importe la façon dont on élève son enfant, je pense que communiquer avec lui est primordial.
Dites-moi, lorsque vous étiez petite, est-ce qu'on vous reprenait si vous faisiez des fautes de français, de grammaire ou de vocabulaire? Peut-être avez-vous agi comme ça avec vos propres enfants d'ailleurs.
Avec mes enfants, ce problème ne s'est pas vraiment posé. Je me rappelle avoir été confrontée à une difficulté de vocabulaire lorsque je me suis aperçue qu'ils ne savaient pas quel mot utiliser en guise de remerciement ou d'excuse. J'ai vite remédié à ce problème, qui est d'ailleurs le seul à s'être posé. En revanche, je me rappelle qu'on nous corrigeait justement sur cette manie de dire « on » au lieu de « nous ». Pour corriger un enfant, je pense qu'il faut s'y prendre lorsqu'ils sont tout petits. S'ils sont plus grands, vous risquez de les blesser, surtout si vous le faites en public. Ensuite, il est nécessaire de garder à l'esprit que certains seront plus réactifs que d'autres. Tout le monde n'apprend pas au même rythme. Cependant, l'acquisition du langage se fait tôt. Je pense qu'il faut établir le contact avec les enfants dès le plus jeune âge. À 5, 6 ans, un enfant n'est pas foncièrement mauvais. Bien sûr, certains ont leur caractère, qui peut parfois être très difficile, mais je suis convaincue qu'à cet âge-là, ils restent malléables. Pour bien faire, il faut parler aux enfants dès le début, lorsqu'ils sont encore bébés. Ils ont des capacités d'apprentissage très développées, et on peut voir à leur mimique qu'ils aiment que l'on communique avec eux.
C'est vrai, ils essayent de reproduire nos gestes.
Oui, ils sont heureux, ils sourient, ce qui montre que la communication est établie. Je pense que cette étape est primordiale, et elle se fait naturellement si on éprouve de l'amour pour son enfant. C'est quelque chose d'instinctif. Certaines personnes ont ce sentiment, d'autres pas. Les gestes de tendresse envers un enfant sont nécessaires à son équilibre. Ils le rendent heureux, le font sourire. Le problème est que de nos jours, les parents sont moins présents pour leurs enfants. Moi, j'ai la chance d'avoir eu des conditions de travail confortables. Je gérais mon emploi du temps et pouvais travailler à la maison. Mais finalement, je ne sais pas s'ils se rendent compte des privilèges dont ils ont bénéficié. Une amie à moi, qui a eu 4 fils en 5 ans, m'a raconté une anecdote amusante il n'y a pas si longtemps. Cette dame habitait à la campagne, ses fils étaient scolarisés à l'école du village. Un jour, pour la fête des mères, ses enfants sont entrés dans sa chambre et lui ont lu le poème qu'ils avaient écrit en classe. Ce texte racontait comme elle était une maman merveilleuse, parce qu'elle se levait tôt le matin pour préparer le café. La pauvre ne savait quoi répondre, car elle ne faisait jamais ces choses-là. Elle n'était pas une maman traditionnelle, mais elle s'occupait tout de même de ses enfants, à sa façon. Elle les emmenait à la mer, skier en montagne. Elle les aimait beaucoup. Il y a quelque temps, un de ses fils, qui a aujourd'hui 40 ans, lui a reproché de ne pas s'être beaucoup occupé de ses frères et lui, lorsqu'ils étaient enfants. La pauvre était choquée par l'ingratitude de son fils. Elle m'a assuré n'avoir rien répondu. Est-ce que vous vous rendez compte de l'image qu'avaient ses enfants de leur mère ? Tout simplement parce qu'elle était une belle femme, qui avait une vie en dehors de son foyer. Il est vrai qu'elle et son mari sortaient souvent, connaissaient beaucoup d'amis, avaient une vie sociale active en somme. Mais elle aimait ses enfants.
Bien sûr.
Si l'un d'eux était malade, elle restait près de lui, ce que beaucoup de mères ne feraient pas. Pourtant, cela n'a pas empêché que son fils se sente délaissé. Ce qui est contradictoire, c'est que ce garçon est certainement le plus affectueux de la fratrie. Il adore sa mère, et pourtant, il n'a pas hésité à lui faire cette remarque. Je pense qu'il n'a pas réalisé la peine que cela pouvait causer à sa mère. C'est curieux.